Je n'ai à choisir dans ces derniers deux textes qui sont très différents en taille, l'un étant 80 Chatila qui fait 30 pages, l'autre qui s'appelle Un captif amoureux qui fait 450 pages. Il y a une présence très forte de la réalité palestinienne, de l'histoire contemporaine palestinienne que je n'ai a voulu et qui est là, mais dans la poésie de Genet, dans l'écriture de Genet. Et c'est assez extraordinaire parce que, si on se rappelle, Genet s'était arrêté d'écrire pendant plusieurs années, Albert en parlera mieux que moi, de longues années, où il n'avait plus le désir d'écrire. Et il est évident qu'il a été témoin d'une réalité palestinienne qui lui a donné envie de réécrire. Et je pense que ceci est très important. C'est pour ça que je suis très reconnaissante à Emmanuel Ponsard et à Didier Morin d'avoir inclus dans ces deux journées consacrées aux 100 ans de Genet la partie aussi de l'œuvre, je disais, les dernières œuvres, comme dirait Adrien Laroche, les derniers Genets qui font partie de l'œuvre de Genet.
Vous avez dit que pour Genet, la Palestine, c'était une cause poétique, plus qu'une cause politique. Est-ce que vous pouvez nous dire ?
Oui, vous savez, je racontais hier avec René que lorsqu'Un captif amoureux a été publié, pratiquement quelques mois après le décès de Genet, la critique littéraire en a fait un pamphlet politique, en disant que c'était l'œuvre d'un auteur qui n'avait plus écrit depuis 25 ans, qui était devenu un peu sénile, qui s'était entiché d'une cause politique, et donc que c'était un livre de propagande. René de Secati avait à l'époque été parmi les premiers à écrire sur le livre. Je découvrais qu'il était parmi les premiers à avoir lu d'ailleurs les épreuves du livre. Il était un des rares à avoir traité de ce livre comme faisant partie de l'œuvre de Genet, mais à une date, comme les œuvres de peinture, une date avancée dans l'œuvre. Et bon, il était très difficile à l'époque de même répondre à cette critique, parce que ce n'est pas à moi de répondre, ni aux Palestiniens, c'est à la critique littéraire, de remettre l'œuvre des écrivains là où elle doit être, dans le contexte. C'est aussi le travail que fait Albert Dichy avec l'IMEC, avec l'Institut de la mémoire de l'édition contemporaine. Et comme la vérité ne peut pas être mise sous la table, le livre est revenu lentement, mais au long des années, ça fait quand même 24 ans que je n'ai, moi, Un captif amoureux et 4 heures à Chatila sont revenus petit à petit pour prendre leur place dans l'œuvre de Genet. Et donc pour moi, ça fait partie de l'œuvre littéraire. D'ailleurs, pour moi déjà, Un captif amoureux est un texte qui est avant tout sur Genet lui-même. Il n'est pas, les Palestiniens sont dedans, comme les panthères noires sont dedans, comme les gens qu'il a aimés sont dedans, comme les villes qu'il a aimées sont dedans, parce qu'ils ont fait partie de sa vie. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de continuité dans la vie de Genet, elle est faite de beaucoup de ruptures. Et donc, pour moi, c'est très important que ce texte reprenne la place normale qu'il a, qui est dans l'œuvre poétique de Genet. Je dirais que, depuis son cinéma, jusqu'à 4 heures à Châtel, jusqu'à Un captif amoureux, la force de l'écriture de Genet, c'est qu'elle est très inspirée par la réalité, mais c'est une écriture lyrique, poétique, politique aussi, bien sûr, mais toute son écriture est politique, son théâtre est très politique, sa biographie sur le journal du voleur, tout ce qu'il a écrit est politique. Dans ce sens-là, bien sûr, qu'il s'est aussi intéressé à la politique palestinienne, mais son œuvre, elle est avant tout l'œuvre d'un écrivain. Elle n'est pas seule d'un acteur politique, c'est un homme qui n'a jamais voulu agir. D'ailleurs, dans les premières pages d'Un captif amoureux, c'est là où lui et moi, on réalise son rapport. On a littéralement une bagarre parce qu'il me demande tellement de questions. Et puis à la fin, excédé, je dis, mais vas-y, va en Palestine, au lieu de continuer à me questionner. Et là, lui comprend que ce n'est pas ce qui l'intéresse. Et moi, je comprends que c'est un autre rapport à la Palestine qui est sûrement d'adhésion, de soutien dans la révolte, mais pas parce qu'elle va atteindre une revendication politique, autant que parce qu'il voit dans la révolte tout le sens de la beauté, de la force, de la révolte contre l'indignation, et qui l'a attiré vers les Palestiniens. Mais il ne faut pas que je monopolise la parole, hein, parce que vous avez ici deux grands spécialistes, et je suis heureuse que vous nous parlez de Genet, parce que je pense qu'il aurait été très bien ici à Marseille avec nous.
Au risque de vous faire répéter, est-ce que vous pourriez nous expliquer les relations d'amitié qui vous liaient avec...
Non, non, je n'ai pas vraiment très envie. J'ai envie de parler de l'œuvre. Oui. Excusez-moi, mais je trouve que, vous savez, ça fait 48 heures qu'on est là, on nous a beaucoup plus parlé de pourquoi notre... En tout cas, la conférence que Didier Morin avait voulu organiser dans son école pour ses étudiants avait été annulée et personne nous a parlé de jeûner. Donc, j'étais très heureuse d'avoir des questions directement sur l'œuvre. Et ce n'est pas très important de venir sur l'anecdote personnelle.
Alors, toujours à propos de l'œuvre,
oui, très bien.
Quelle diffusion, à votre avis, elle a dans les territoires en Palestine ?
Écoutez, je suis très heureuse de vous dire que... Un captif amoureux a été magnifiquement traduit par un grand poète irakien qui s'appelle Kazem Jihad, que Albert connaissait très bien, qui est aujourd'hui professeur à la Sorbonne de littérature, qui est un excellent traducteur, qui a déjà traduit Derrida, Juan Goiti Solo, plusieurs auteurs, Rimbaud et Genet. Et le Centre national du livre, il y a plusieurs années, il y a 25, plus de 20 ans, avait accepté de lui accorder une bourse d'études parce que la traduction de Genet est tellement difficile, parce que sa phrase, sa syntaxe n'est pas facile. Ils avaient accordé à Kazem Jihad une bourse de 2 ans, et moi je l'avais obtenu une bourse de l'UNESCO, pour qu'il puisse consacrer 2 ans à la traduction. Et donc le livre est publié en arabe, et une merveilleuse traduction. Il a été publié au Caire, il a été publié au Maroc, et maintenant nous allons le publier en Palestine pour que le prix du livre soit accessible, et parce que faire entrer des livres dans les territoires occupés, c'est un casse-tête sans fin, parce que sécurité, machin, qu'est-ce qu'il y a dedans, ils vont regarder chaque mot. Et je pense que nous organiserons l'année prochaine, on n'aura pas été à temps pour les 100 ans, mais on organisera en Palestine toute une série d'activités autour d'un captif amoureux en arabe, avec l'université et avec le Centre culturel français qui souhaitait le faire cette année, mais les événements ne nous ont pas permis d'avoir assez de temps pour le faire, mais nous le ferons en 2011, j'espère.
Est-ce qu'il est prévu alors d'y associer Marseille-Provence 2013?
Ah oui, vous nous donnez une très bonne idée. Très bonne idée, oui, pourquoi pas. Vous savez, Didier Morin a fait un film aussi sur Genet, donc on peut associer le cinéma, on peut associer les critiques comme René, les responsables des éditions contemporaines, c'est vrai. Vous nous donnez une bonne idée, pourquoi ne pas associer Emmanuel, on te lance une perche là, voilà, à travers le Centre international de la poésie. C'est une très bonne idée, surtout que le centre a déjà des relations avec la Palestine. Vous avez même publié des poètes palestiniens traduits de l'arabe en français, oui.
Est-ce qu'il avait rencontré Mahmoud Darwish ?
Oui, oui, bien sûr, il avait rencontré Mahmoud Darwish. Et Mahmoud Darwish l'avait lu, traduit en arabe. Et, parce qu'il y a donc Kazem Jihad qui a traduit Un captif amoureux. Hama Barada, qui est mon mari, a traduit 4 heures à Shatila. Et une professeure syrienne de théâtre à Damas a traduit Les paravents et Les bonnes. Et je n'ai été très fière qu'il y avait eu... Il n'a pas su, malheureusement, pour Un captif amoureux, parce que ça s'est fait après sa mort. Mais je me rappelle la lettre qu'il a écrite à cette femme, qui Hanan Qassab Hassan, qui avait traduit, parce qu'il était persuadé que les textes étaient tellement sur le plan de la forme et des sujets tabous qu'il traitait, seraient impubliables en arabe. C'était sa revanche qu'on pouvait les trouver aussi en langue arabe. Et donc Darwish aussi, l'a lu aussi en arabe. Mais Genet n'était pas un homme qui aimait fréquenter les milieux culturels, qu'ils soient palestiniens ou français ou grecs ou ce que c'est. Il s'est toujours préservé beaucoup des relations sociales, avec très peu d'amis dans sa vie, ceux qu'il a adoptés parce qu'il les aimait, ou ceux qui ont été ses amants, mais même ses amants, avec le temps, il s'en est éloigné, et jamais de cercle littéraire, ou peut-être Jacques Derrida, peut-être Jacques Derrida. Non, Jacques Derrida, il avouait à Jacques Derrida, je pense, une très profonde amitié et admiration, qui leur a permis, même au-delà de leur perception différente des questions politiques, d'avoir une réflexion presque philosophique très, très spéciale et assez unique, tu ne trouves pas ?
Voilà. Il y a eu Jacques Derrida comme philosophe et Giacometti comme artiste.
Oui, et Giacometti.
Ça a été ces deux grandes amitiés. Pour Darwish, il faut aussi rappeler que Darwish a aussi fait publier en arabe le 4 heures à Shatila
dans Al-Karmel.
Et comme à cette époque, il y avait eu un silence qui s'était fait, y compris dans le monde arabe, autour des massacres de Sabra et Shatila, ce texte a été longtemps le seul texte qui est raconté dans le monde arabe, le massacre.
Jacques Derrida, dans une très belle réunion à Gennevilliers, où on présentait la pièce,
oui,
a dit une phrase absolument extraordinaire de perception et de beauté dans l'expression. Je risque de même voir en le disant, parce que comme dit Albert, il faut que vous compreniez, 4 heures à Shatila, c'est un massacre qui s'est fait sur un territoire libanais, dans un camp palestinien, par aussi des bourreaux qui n'étaient pas seulement israéliens, mais aussi libanais. Et donc, il est une immense blessure ouverte, qui n'était pas encore refermée, d'ailleurs. Et donc, pendant longtemps, pour des raisons politiques trop compliquées à expliquer ici, mais la mainmise des autorités syriennes sur le camp, au fait qu'on n'a jamais fait de sépulture, on n'a jamais fait de tombe, on n'a jamais fait de monument aux victimes, et que personne ne savait où étaient enterrés, la plupart, parce que c'était des fosses communes. Et Derrida, qui n'a jamais mis ses pieds dans le camp de Shatila, a dit quelque chose de bouleversant. Il a dit finalement, ce texte de Genet est la seule sépulture des morts de Shatila. Oui. Et c'est tellement vrai jusqu'à aujourd'hui.
Oui. Et vous deux, alors, René Tsekati et Albert Dissi, en tant que critique littéraire spécialiste de l'œuvre de Genet, que représente la Palestine dans l'œuvre de Genet ?
Ce que vient de dire Leïla, bien entendu, mais il y a aussi chez Jean Genet, disons, une défiance à l'égard de toute appartenance à une patrie. Et donc, lui-même a eu une vie de vagabond durant toute sa vie, et détester la France, et chercher une alternative, parce qu'on ne peut pas complètement vivre sans pays. Et donc je pense qu'il s'est reconnu dans la Palestine, parce que c'était, pour des raisons très multiples, mais parce que c'était des êtres qui étaient privés de leur territoire, qui ont été dépossédés du lien de la terre d'où ils venaient. Et on ne peut jamais oublier que Jean Genet est un enfant abandonné, et que donc il a été dépossédé de quelque chose. Il a fait de cette dépossession une fierté. Il l'a revendiqué et c'est devenu un refus. C'est-à-dire, ce qui lui a été volé, il en a fait un refus de la patrie, de la famille, des liens conventionnels, institutionnels. Et donc, chez les Palestiniens, il a retrouvé la même chose, il a trouvé la dépossession, mais il n'est pas allé jusqu'au refus. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé jusqu'à dire « c'est comme ça qu'il faut vivre, c'est comme ça qu'un peuple doit vivre », parce que, justement, par Leïla, il a découvert la réalité palestinienne, et la réalité palestinienne, c'était un peuple qui non seulement était dépossédé, mais qui était harcelé, et qui n'a plus aucun droit de vivre. Alors c'est une mutation dans sa morale. Parce que jusque-là, Jean Genet a construit toute son œuvre sur un refus de la morale, un refus des valeurs du bien par provocation, parce que le bien était défendu par des gens qui n'y croyaient pas. Le problème, ce n'était pas de refuser le bien, c'était de refuser un discours sur le bien. Avec la Palestine, c'est autre chose, parce que brusquement, il va avoir un discours moral sur la Palestine, un discours qui est d'un autre ordre que le discours qu'il avait eu jusque-là. Et c'est pour ça que beaucoup de lecteurs de Jean Genet ont été perdus en lisant Un captif amoureux, parce qu'ils ont dit, tiens, voilà quelqu'un qui a un discours politique, brusquement, lui, le voleur, lui, le criminel, celui qui a défendu la trahison, voilà qu'il a un discours moral. Mais c'est qu'ils avaient mal lu le discours sur la trahison. Le problème est là, c'est-à-dire qu'on parlait hier de la mauvaise foi. Non, il n'y a pas de mauvaise foi chez Jean Genet. Il y a un discours provoquant vers ceux qui prétendent avoir de la bonne foi et qui n'en ont pas, vers ceux qui prétendent avoir de la morale et qui n'en ont pas, vers ceux qui prétendent représenter des valeurs religieuses, comme le pape, et qui sont des bouffons. Moi, je lis Un captif amoureux en écho auparavant, bien entendu, et même au balcon, parce que ce n'est pas contradictoire, c'est-à-dire que c'est un discours qui montre la grandeur, la noblesse du discours de Genet, qui est apparemment provocant, apparemment immoral, mais qui ne l'est pas, profondément qui ne l'est pas. Donc c'est normal que la Palestine, que la situation politique palestinienne ait représenté quelque chose d'extrêmement important, comme bien sûr les panthères noires, mais aussi parce qu'il pouvait avoir... Jean Genet était un lecteur de la Bible. C'était quelqu'un qui connaissait très bien les textes spirituels. Et il découvrait un autre regard sur Jérusalem, sur la Palestine, non pas la Palestine de l'Ancien Testament et la Palestine du Nouveau Testament, des évangiles. Et il y a des passages qui sont extrêmement troublants dans Un captif amoureux, parce qu'on s'aperçoit que Jean Genet a une lecture extrêmement profonde des textes spirituels. C'est pour ça que je suis toujours insurgé contre les lectures partisanes de Jean Genet qui veulent en faire un antisémite, sous prétexte qu'il a critiqué bien sûr les positions d'Israël politiques et qu'il a pris position pour les Palestiniens. Ce n'est pas être antisémite que de prendre position pour les Palestiniens. Ce n'est pas être antisémite que de critiquer une certaine politique israélienne. Et bon, et en cela, c'est quelque chose de très nouveau. Profondément, ce n'est pas nouveau dans l'œuvre de Jean Genet. C'est pour ça que moi, je l'ai lu dans la continuité, parce que je pense qu'il y a en réalité, dans l'apparent immoralité de Genet, une position très profondément morale, qui est la position d'un artiste. Un artiste qui met les valeurs morales non pas dans ce langage idéologique qui est défendu sur la vie sociale bienséante, mais une morale beaucoup plus profonde, qui est aussi la morale de Baudelaire, qui est la morale de Rimbaud, qui est une éthique, une position d'artiste qui peut lui donner une acuité politique extraordinaire. Moi, pour résumer rapidement.
Oui, juste pour dire au fond que la relation de Genet avec les Palestiniens n'a pas été tellement la relation d'un intellectuel envers une cause qu'il soutient, elle a davantage été de l'ordre de la rencontre. Donc de la rencontre entre, d'une part, comme vient de le dire René Tsekati, au fond, pas un ambassadeur de l'Occident, mais un vagabond, quelqu'un qui fuit, et donc qui peut traverser la frontière plus facilement qu'un ambassadeur, et qui rencontre un autre peuple vagabond. Donc entre le déracinement propre de Genet et celui du peuple palestinien, il y avait un rapport. Et puis aussi, il y a aussi la question du temps, c'est-à-dire que Genet a rencontré les Palestiniens à un moment particulier, donc dans ces années 1970, où les Palestiniens, le vocabulaire même avait changé, c'est-à-dire que les Palestiniens n'étaient plus seulement des réfugiés, ils devenaient des fedayins. Donc le moment où on a basculé du terme de réfugiés, disaient les camps de réfugiés, auparavant, au camp palestinien, au camp des combattants. Et ce moment-là de basculement, Genet, au fond, l'a accompagné parce que c'est un moment d'affirmation. Et un poète peut accompagner beaucoup plus fortement qu'un politique ou qu'un journaliste le moment où un peuple s'affirme. Parce que là, il peut lui donner un champ. Hein. Et au fond, Genet, peut-être plus qu'un témoignage ou qu'un reportage, ou il a donné un chant au peuple palestinien et à ce moment-là. Voilà.
Pourquoi est-ce qu'il avait arrêté d'écrire ?
On peut donner plein d'explications. Il y avait la mort de son compagnon, le suicide d'Abdallah, qui est le funambule, qui joue un rôle important dans son œuvre. On peut donner mille raisons à cela, mais je pense que c'est aussi parce que Genet n'était pas un écrivain professionnel, n'était pas quelqu'un qui faisait son... Voilà, qui vivait ses œuvres. C'était quelqu'un qui ne pouvait écrire probablement que dans une sorte d'urgence. Le principal de son œuvre a été écrit lorsqu'il était en prison et qu'il était sur le bord sur le point de se perdre. Hein. Il risquait la prison à perpétuité. Il a beaucoup joué avec. Genet a beaucoup joué, mais il jouait avec le feu. C'était pas si gratuit que ça. Et donc là, il a produit le principal de son œuvre. Et puis ensuite, à part le passage par le théâtre qui lui a ouvert à un moment donné une voie d'accès possible, il a fallu attendre finalement peut-être l'ombre de la mort. Hein. Lorsque Genet commence à écrire Un captif amoureux, il sait qu'il est condamné par la médecine. Il a un cancer, il sait qu'il a 2-3 ans devant lui. Et donc peut-être qu'il n'écrit que sous cette forme d'urgence, avec l'idée que ce livre qu'il portait et qu'il voulait donner aux Palestiniens et aussi aux Panthères Noires, il devait le produire avant de mourir.
Qu'est-ce que vous attendez de cette commémoration des 50 ans?
Moi, je peux juste dire, en tant que lectrice, puisque je ne suis pas une spécialiste de littérature ni de Genet, c'est surtout de peut-être permettre à ceux qui ne l'ont pas lu, et je pense en particulier aux jeunes, et je n'oublie pas qu'hier on était dans un milieu surtout d'étudiants des Beaux-Arts, de pouvoir dire combien il est encore moderne dans sa manière d'écrire la réalité qu'il a vécue. Et j'étais personnellement très heureuse de voir hier tous les jeunes étudiants des Beaux-Arts qui, au bout de la journée, ils ont été très présents pendant toute la journée, dire qu'ils ne l'avaient pas lu et qu'ils avaient envie de lire toute son œuvre maintenant. Je ne sais pas ce que les littéraires pensent des centenaires, des écrivains.
Non, c'est toujours important, un centenaire, parce que, enfin, surtout pour un écrivain comme Jean Genet. C'est-à-dire que quelqu'un, il est très très important de sortir un écrivain du contexte dans lequel il a commencé à se faire connaître. Et surtout, le cas de Jean Genet est très particulier, parce qu'il aurait pu, il a commencé par être un écrivain pour homosexuels, pour érotomanes, il faut dire les choses comme elles sont. Au début, quand les premiers textes sont sortis, il a pris une ampleur considérable quand Sartre l'a présenté comme le plus grand écrivain contemporain, ce qui n'était pas rien comme reconnaissance venant de Sartre, qui lui-même était à ce moment-là l'écrivain le plus connu dans le monde, écrivain français. Il a été connu après comme auteur de pièces de théâtre, et on s'aperçoit maintenant, au bout de 100 ans, que finalement c'est une œuvre protéiforme et qui peut concerner beaucoup de gens. En plus, nous avons la chance d'une évolution des mœurs considérable qui fait qu'on ne lit plus maintenant qu'un jeune homme, une jeune femme qui a 20-25 ans, ne lit plus maintenant un livre d'un homosexuel comme on pouvait le lire il y a 50 ans. Il s'agit plus d'une reconnaissance et d'une complicité, d'un partage de sensibilité, c'est autre chose. On s'aperçoit qu'un écrivain qui pouvait être considéré comme un écrivain très particulier il y a 50 ans est un écrivain universel. C'est le bienfait d'une commémoration, c'est-à-dire de donner un aspect universel et un public beaucoup plus large. Il ne s'agit pas d'institutionnaliser Jean Genet. Des gens ont ironisé au moment du centenaire en disant, vous voyez, finalement, l'institution le récupère, il devient... Mais ça a du bon. Il ne s'agit pas de l'institution, elle récupère tout, mais si on peut bénéficier d'une récupération, autant, je veux dire, quand on est un grand écrivain, si on peut en bénéficier, il faut surtout ne pas cracher dans la soupe. Il faut prendre ce que peut donner une diffusion. Après, c'est au lecteur à en juger, mais le tout qu'ils aient accès à ça. Moi, on posait le problème aussi hier du fait que quand on lisait Jean Genet il y a 30 ans, il fallait acheter des livres chers, qui étaient les livres de l'Arbalète ou les œuvres complètes. Maintenant, on le trouve en livre de poche et ça participe. Tout ce que nous faisons et que de manière générale, les gens qui célèbrent un écrivain comme ça font, permet justement une grande diffusion et le fait même maintenant un journal du voleur étant dans des collections scolaires par exemple. C'est important, je ne dis pas que c'est la seule lecture possible, mais c'est important, ça veut dire qu'on peut avoir des regards divers et on peut réfléchir en milieu scolaire, c'est-à-dire avec une très grande diversité de regards et d'interprétations sur une œuvre.
Notre-Dame des Fleurs n'est pas encore enseignée dans les écoles religieuses, mais ça ne saurait tarder. Mais quand même, le centenaire, c'est un moment important dans une œuvre. Mis à part toutes les questions de célébration, de commémoration, c'est un moment dans une œuvre parce que c'est le moment, au fond, où c'est comme un bateau qui est en pleine mer. Donc le destin d'une œuvre se joue à ce moment. Ou bien elle va sombrer. Beaucoup d'œuvres qu'on pensait majeures ont disparu. Et puis c'est... Ou alors, elles prennent la mer. Et là, c'est le moment aussi où l'œuvre de Genet quitte son port, quoi. C'est échappe même à Genet lui-même, je veux dire, à ses propres images, à son contexte. Au fond, c'est là où on verra. Laila disait qu'Un captif amoureux, c'est vrai, ça fait maintenant, le livre a paru en 1986, donc on est très loin de là, du moment historique où le livre a été écrit dans l'histoire des combats Palestine-Israël. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que ce livre reste encore neuf, il n'a pas pris une ride. Donc, du coup, il échappe même à... Je veux dire, il rend compte, il rend mieux service à la cause palestinienne en sortant du contexte dans lequel il a été écrit, plutôt qu'en s'y inscrivant comme un témoignage trop restrictif. Voilà. Donc 100 ans pour une œuvre, c'est un moment particulier.
Est-ce qu'on peut parler 2 minutes de la Palestine?
Non, je pense que vraiment là, on est pour une rencontre sur Genet. Donc, on le fera à un autre moment, si vous voulez.
Une dernière question, c'est une partie de la manifestation qui s'est déroulée à l'école supérieure des Beaux-Arts de Marseille. Il y a eu une interdiction 2 jours avant, ou la veille, je crois, de la tenue de cette rencontre. Comment vous réagissez à cette interdiction, pour des raisons de sécurité?
Disons que moi, je l'ai appris lundi matin. Je l'ai appris lundi matin par ma hiérarchie, il était 10 heures. Voilà, c'était panique à bord, hein, parce que... On avait travaillé depuis plusieurs semaines, tous les 5, hein, avec Emmanuel sur cette journée et cette soirée. Voilà, grâce à Emmanuel, parce que moi je connais pas bien le milieu marseillais, ça fait les 2 mois associés l'un à côté de l'autre. Associés, enfin je connais moins bien que lui, en tous les cas, les institutions marseillaises et les différents lieux, etc. Donc lui, très vite, a réussi à trouver, on a essayé plusieurs salles, une seule était libre, et celle de la région où nous étions hier. Voilà les motifs. La lettre que j'ai, moi, c'était que Leïla Chahi est une personne trop menacée. Donc, pour sa sécurité, c'était très difficile de l'accepter dans l'école. Et que aussi, ça menaçait la sécurité des étudiants. Donc, voilà. Mais la journée, nous, on n'a pas modifié notre programme. Je pense que la journée d'hier a été celle que nous avions prévu, et voilà. Et puis je pense que sans nous flatter, il y a eu ça, on a rencontré un certain succès, mais on ne savait pas du tout que la presse allait nous aider à ce point-là, enfin que l'interdiction allait nous aider à ce point-là.
C'est
grâce à Marseille. C'est grâce à Marseille, donc bravo. Tout à l'heure, on disait qu'il ne fallait surtout pas changer le de la communication, parce que c'était vraiment. Il n'y a aucune institution.
Salut Alumini.
Non,
Non, non, ça n'a pas eu lieu à l'Emmaüs, ça a eu lieu donc sur la Canebière, au 61 Canebière, dans un lieu que moi je ne connaissais pas, qui est très agréable. Je veux dire, on a bien fait d'être là-bas parce qu'on était bien plus confortable, plus petit certes, mais bien plus confortable. Et c'était la maison de la région. C'est la maison de la région.
Merci.
Peut-être vous voulez dire un mot sur ces questions de sécurité.
Écoutez, je ne suis pas une spécialiste de sécurité, et sûrement pas à Marseille. Je ne me sens pas du tout menacée. Et la preuve, c'est que je ne sais pas qui me menacerait à Marseille plus qu'à Bruxelles ou Paris ou ailleurs. Hein,
ce qu'on peut dire quand même, c'est que les raisons de sécurité invoquées sont vraiment complètement fallacieuses. Puisque moi, j'ai prévenu quelques jours, enfin une dizaine de jours avant la manifestation que j'ai lâchée à Yvonnet en donnant les horaires, les lieux, etc. Demain, hein. La préfecture de police dit bon, très bien, on fera ce qu'il faut faire. On n'a même pas dit quoi. Il n'y a eu aucune réserve, rien, absolument rien. On ne voit pas pourquoi la maire de Marseille, tout d'un coup, c'est pas la police municipale qui est quand même en charge de la sécurité des personnalités.
Alors, on peut expliquer ça quand même aussi, parce qu'on peut expliquer ça. Bon, c'est vrai qu'à l'École des Beaux-Arts, actuellement, il n'y a plus de directeur. Donc, il y a un directeur qui est intérimaire, et à qui moi j'ai envoyé un courrier aussi en disant que la chérie venait, et puis que, voilà, moi non plus n'étant pas un spécialiste de la sécurité, voilà, c'était la réponse. Mais en tout cas, je trouvais ça très, 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 très bizarre. C'est tombé au moment où on avait une ministre des Affaires étrangères qui proposait ses policiers pour la Tunisie, et je m'en suis dit, finalement, il n'y a pas deux, il n'en reste plus deux pour assurer la sécurité de la chaîne. Ils étaient tous partis là-bas, ou quoi?
Bon. Voilà. Merci.